Il est 22h à Paris. Bonsoir et bienvenue. Le journal sur Radio France Internationale.
Mathis Limano.
Et à la une en Israël, la garante de la démocratie en passe d'être limogée. Le gouvernement a engagé ce dimanche un processus de destitution contre la procureure générale. Elle avait notamment diligenté une enquête sur les liens entre le premier ministre Netanyahou et le Qatar. La magistrate reproche au gouvernement de vouloir se placer au-dessus de la loi. 15 millions d'électeurs se sont rendus aux urnes ce dimanche en Turquie, chiffre communiqué par le CHP, le parti d'opposition, organisé une primaire symbolique en pleine contestation populaire en soutien à son leader, le maire d'Istanbul. Ekrem İmamoğlu est en détention depuis ce dimanche pour corruption. Reportage à suivre à Bruxelles dans le cortège des manifestants. Ils ont défilé cet après-midi contre le racisme et la montée de l'extrême droite. Et puis le score a évolué au Stade de France entre la France et la Croatie. En Ligue des Nations, les Bleus mènent maintenant 1-0. On appelle Victor Missistrano en direct du Stade de France. Mais tout d'abord, la procureure générale d'Israël en passe d'être limogée. Ce dimanche, le gouvernement a engagé un processus de destitution. Cela pourrait prendre plusieurs mois. L'opposition israélienne dénonce un signal très inquiétant envoyé par l'exécutif et parle de la fin de la démocratie dans le pays. Michel Paul est à Jérusalem pour RFI.
Première étape, une motion de défiance. Les ministres israéliens ont voté à l'unanimité le début de la procédure de destitution de la procureure générale. Le ministre de la Justice, Yariv Levin, qui présidait la séance, a vivement déploré que Gali Barav Miara n'ait pas assisté à cette réunion ni envoyé de représentants. C'est une preuve supplémentaire du profond mépris qu'elle manifeste envers le gouvernement et ses membres, a-t-il déclaré. La conseillère juridique du gouvernement, c'est son titre officiel, dans une lettre cinglante au ministre, accuse le gouvernement de vouloir se placer au-dessus de la loi et agir sans contrôle ni équilibre. Elle qualifie cette réunion du gouvernement portant sur sa propre destitution de « dépourvue de validité juridique ». L'objectif réel de la procédure, ajoute-t-elle, est de fermer les yeux sur des actions illégales prises par le gouvernement. Le cabinet israélien s'est réuni en l'absence du chef du gouvernement. Benjamin Netanyahou est en conflit d'intérêts pour cette procédure en raison de son procès pour fraude, abus de confiance et corruption. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
Gali Barav Miara avait ordonné une enquête contre le chef du gouvernement. En cause, ses liens supposés avec le Qatar, principal financeur du Hamas et médiateur clé dans le conflit. Cette procédure de destitution intervient quelques jours après le limogeage du directeur du Shin Bet, les renseignements intérieurs en Israël. Décision qui avait provoqué d'importantes manifestations. Après une trêve de 2 mois, l'armée israélienne continue ses frappes sur la bande de Gaza à Khan Younes, dans le sud, l'hôpital Nasser, touché par un bombardement tout à l'heure. Des avions visaient le service des urgences, indique la défense civile. On ne sait pas pour le moment s'il y a des victimes. Plus tôt dans la journée, les habitants d'un quartier de Rafah, toujours au sud de l'enclave, forcés d'évacuer avant une offensive. Dans la bande de Gaza, la guerre lancée depuis le 7 octobre a fait plus de 50 000 morts, selon le dernier bilan du ministère de la Santé du Hamas. Au Liban, un membre du Hezbollah est mort dans une frappe, affirme l'armée israélienne. Elle a eu lieu ce dimanche dans le sud du pays, au lendemain de frappes meurtrières qui ont fait 8 victimes, selon l'agence de presse libanaise. Israël dit riposter à des tirs de roquettes vers son territoire, des tirs non revendiqués. Le premier ministre libanais met en garde contre une reprise du conflit après 4 mois d'une trêve déjà fragile. RFI minuit et 4 minutes à Istanbul, le maire de la plus grande ville de Turquie envoyé en prison pour corruption, Ekrem İmamoğlu, a aussi été suspendu de ses fonctions. L'opposant bête noire du président Erdogan a été arrêté mercredi, déclenchant ainsi une vague de manifestations monstres dans le pays. Contestation inédite depuis l'éphémère mouvement de Gezi en 2013. Cette mobilisation sera-t-elle suffisante pour déstabiliser Recep Tayyip Erdogan? Ce dernier peut compter sur le climat international. L'élection de Donald Trump conforte le président turc. C'est en tout cas l'analyse de Max Valentin Robert, spécialiste de la Turquie. Il était l'invité de RFI à la mi-journée avec Charlotte Idrac.
Désormais, les États-Unis sont moins enclins à se préoccuper de l'état de la démocratie dans le monde. On peut notamment mettre en parallèle l'indifférence des États-Unis par rapport à ce qui se passe en Turquie avec leur indifférence par rapport à ce qui se manifeste actuellement au niveau du conflit russo-ukrainien. Mm-hmm. Et on peut même aller plus loin. Par exemple, Elon Musk a censuré plusieurs comptes X proches de l'opposition turque et couvrant les manifestations en Turquie. Ce qui fait qu'on peut même aller jusqu'à dire que non seulement le retour de Trump aux responsabilités a favorisé une fenêtre d'opportunité pour les velléités autoritaires d'Erdogan, mais côté américain, il y a également un quasi-soutien à ce raidissement autoritaire en Turquie.
15 millions d'électeurs ce dimanche, selon le CHP, le parti d'opposition d'Ekrem İmamoğlu tenait une primaire symbolique. Seul candidat en lice, le maire d'Istanbul, incarcéré donc depuis aujourd'hui, depuis sa prison, il a salué cette nouvelle et a promis que la nation donnera au gouvernement une gifle inoubliable. Nouveau signe du durcissement de la répression en Turquie, les autorités annoncent le blocage de plus de 700 comptes X d'opposants politiques. En Arabie Saoudite, les discussions entre Américains et Ukrainiens ont débuté il y a quelques heures. Elles portent sur une trêve limitée dans le conflit avec la Russie, un arrêt provisoire des frappes sur les installations énergétiques, largement endommagées côté ukrainien après plus de 3 ans de guerre de haute intensité. Demain, ce sera au tour de la délégation russe de négocier avec les Américains. L'émissaire spécial de Donald Trump, Steve Witkoff, dit s'attendre à de vrais progrès, mais du côté de Moscou, on est moins optimiste. Les discussions seront difficiles, estime le Kremlin. La nuit dernière, des frappes russes sur Kiev ont fait 3 morts et 10 blessés. Il faut mettre la pression sur Moscou, s'agace Volodymyr Zelensky. On est à Bruxelles, dans votre édition internationale. Des milliers de personnes réunies cet après-midi pour manifester contre la montée de l'extrême droite à travers le monde et le racisme, mais aussi pour dénoncer la politique migratoire du nouveau gouvernement belge. Reportage RFI, Laxmilota.
Make racism wrong again. Rendez le racisme à nouveau inacceptable, peut-on lire sur les pancartes des manifestants. Jenny est venue en famille avec ses enfants.
On est assez inquiets, même au niveau de la Commission européenne. On voit que les discours de haine à l'égard des migrants sont en train de s'accentuer.
Le gouvernement du nationaliste flamand Bart De Wever vient de lancer une campagne sur les réseaux sociaux à l'intention des migrants. Ne venez pas en Belgique, politique migratoire la plus stricte jamais vue, annonce le message diffusé sur WhatsApp et YouTube, un discours dénoncé par les militants.
Tout le monde a le droit d'avoir une place dans le monde, dans chaque pays.
On a un nouveau gouvernement qui va être beaucoup plus draconien avec l'immigration notamment. Et donc, il est temps qu'on se réveille un peu partout en Europe et dans le monde.
J'ai hébergé des migrants, je les ai conduits chez les gens pour qu'ils ne dorment pas à la rue, surtout quand il faisait froid, quand il pleuvait en hiver. Simplement les droits des êtres humains. Et tout le reste, c'est de la politique. Aïe.
Une journée de grève nationale est prévue à la fin du mois pour dénoncer plus largement la politique du nouveau gouvernement. Laxmilota, Bruxelles, RFI.
Direction Paris à présent, le Stade de France, c'est la seconde mi-temps dans le match entre la France et la Croatie. On joue les quarts de finale de la Ligue des Nations, battu 2-0 à l'aller, les Bleus doivent créer l'exploit. On rejoint notre envoyé spécial au Stade de France, Victor Missistrano. Victor, il y avait 0-0 à la mi-temps et un début de révolte chez les Bleus avec un but.
Oui, un but, 1-0 pour l'équipe de France. On joue la 65e minute de jeu. Les Bleus qui ont fait la moitié du chemin, donc ils sont parvenus à percer le verrou croate une première fois après un peu plus de 5 minutes en seconde période. Un retour des vestiaires timides. Ils ont inscrit un but magnifique, un coup franc direct. C'est assez rare en sélection. Coup franc du gaucher Michael Olysee qui est venu se loger dans la lucarne du gardien croate qui n'a pas bougé. La lumière qui est venue du jeune Olysee comme un symbole d'un des 5 changements opérés par Didier Deschamps par rapport à la déroute du match aller. Pour apporter sa technique, le milieu offensif du Bayern Munich qui inscrit là son tout premier but en sélection. Ce but qui vient concrétiser une nette domination française dans ce match. Des Bleus extrêmement déterminés à l'image d'un Kylian Mbappé déchaîné qui n'a cessé jusqu'ici de faire des gestes avec les bras pour demander l'aide du public, des supporters qui vont encore faire du bruit pour tenter d'aider les Français à inscrire ce but du 2-0 qui enverrait les deux équipes en prolongation dans ce quart de finale de Ligue des Nations. Les Bleus qui continuent de pousser, mais pour l'instant toujours 1-0, donc contre la Croatie.
Merci Victor. Victor Missistrano depuis le Stade de France. Dans les autres matchs de la soirée en Ligue des Nations, les Allemands creusent l'écart 3-1 contre les Italiens. Les Portugais neutralisés pour le moment, 1-1 face au Danemark. Même score en Espagne, les Espagnols reçoivent eux les Néerlandais. Il est 22h10 à Paris, une heure de moins en temps universel.